Quoiqu'on eût été que 2 jours absent, il y avait bien du nouveau chez la marquise. Mademoiselle de Thérose était dans son lit, une indisposition prétendue causée par l'inquiétude, par le chagrin de se voir son mari exposé, la retenait couchée depuis 24 heures. Une baigneuse intéressante, 20 tonnes de gaz autour de sa tête et de son col, une pâleur tout à fait touchante, en la rendant 100 fois plus belle encore, ranima tous les feux du président dont la fustigation passive qu'il venait de recevoir enflammait encore mieux le physique. Delgaz était auprès du lit de la malade et prévint tout bas Fontanis de ne pas même avoir l'air du désir dans la douloureuse situation où se trouvait sa femme. L'instant critique était venu dans le temps des règles, il ne s'agissait rien moins que d'une perte. « Ventre bleu !» dit le président. « Il faut que je sois bien malheureux. Je viens de me faire étriller pour cette femme, mais étriller magistralement, elle me prive encore du plaisir de m'en dédommager avec elle. » Au reste, la société du château se trouvait augmentée de 3 personnages dont il est essentiel de rendre compte. Monsieur et madame de Totteville, Jean Alorès des environs, venaient d'y amener mademoiselle Lucille de Totteville, leur fille, petite brune éveillée d'environ 18 ans et qui ne cédait en rien aux attraits langoureux de mademoiselle de Thérose. Afin de ne pas faire languir plus longtemps le lecteur, nous lui apprendrons tout de suite ce qu'étaient ces 3 nouveaux personnages qu'on avait trouvé à propos d'introduire sur la scène pour en reculer le dénouement ou pour l'amener plus sûrement aux fins proposées. Totteville était un chevalier de Saint-Louis ruiné qui, traînant leur ordre dans la boue pour quelques dîners ou quelques écus, acceptent indifféremment tous les rôles qu'on a dessein de leur faire jouer. Sa femme, supposée, était une vieille aventurière dans un autre genre, qui ne se trouvant plus d'âge à trafiquer de ses attraits, se dédommage en commerçant de ceux des autres. Pour la belle princesse qui passait pour leur appartenir, tenant à une telle famille, on imagine aisément de quelle classe elle sortait. Écolière de Paphos dès son enfance, elle avait déjà ruiné 3 ou 4 fermiers généraux, et c'était en raison de son art et de ses attraits que l'on l'avait spécialement adoptée. Cependant, chacun de ces personnages choisit dans ce que leur classe offrait de mieux, bien stylé, parfaitement instruit, et possédant ce qu'on appelle le vernis du bon ton, soutenait au mieux ce qu'on attendait de lui, et il était difficile, en les voyant ainsi mêlés à des hommes et à des femmes de bonne compagnie, de ne pas les en croire également. À peine le président fut-il arrivé que la marquise et sa sœur lui demandèrent des nouvelles de son aventure. « Oh, ce n'est rien, » dit le marquis en suivant les intentions de son beau-frère. « Oh, c'est une bande de coquins qu'on réduira tôt ou tard. Il s'agira de savoir ce que le président voudra sur cela. Chacun de nous en se fera un plaisir de concourir à ses vues. » Et comme Dolincourt s'était hâté de prévenir tout bas des succès et du désir qu'avait le président qu'il restasse dans l'oubli, la conversation changea et l'on ne parla plus des revenants de Thérose. Le président témoigna toute son inquiétude à sa petite femme, et plus encore l'extrême chagrin qu'il avait que cette maudite incommodité dût reculer encore l'instant de son bonheur. Et, comme il était tard, on soupa et fut se coucher ce jour-là sans qu'il arrivât rien d'extraordinaire. Monsieur de Fontanis, qui, en bon romain, augmentait la somme de ses bonnes qualités d'un penchant extrême pour les femmes, ne vit pas sans quelque velléité la jeune Lucille dans le cercle de la marquise d'Olincourt. Il commença par s'informer de son confident l'abri, quelle était cette jeune personne, et celui-ci lui ayant répondu de manière à nourrir l'amour qu'il voyait naître au cœur du magistrat, lui persuada d'aller en avant. « Oh, c'est une fille de qualité, » répondit le perfide confident, mais qui n'est pourtant pas à l'abri d'une proposition d'amour d'un homme de votre espèce. « Monsieur le Président, » continua le jeune fourbe, « vous êtes l'effroi des pères et la terreur des maris, Et quelques projets de sagesse qu'un individu femelle ait pu faire, il est bien difficile de vous tenir rigueur. Figure à part, inutile que l'État, quelle femme peut résister aux attraits d'un homme de justice, cette grande robe noire, ce bonnet carré, et croyez-vous que tout cela ne séduise pas? Il est certain qu'on se défend difficilement de nous. Nous avons un certain homme à nos ordres qui fait toujours l'effroi des vertus. Enfin, tu crois donc, l'abri, que si je disais un mot, on se rendrait, n'en doutez pas. Mais il faudrait me garder le silence. Tu sens bien que dans la situation où je me trouve, il est important pour moi de ne pas débuter avec ma femme par une infidélité. Oh, monsieur, vous la mettriez au désespoir. Elle vous est si tendrement attachée. Moi, crois-tu qu'elle m'aime un peu? Mais elle vous adore, monsieur, et ce serait un meurtre que de la tromper. Cependant, tu crois que de l'autre côté, vos affaires avanceront infailliblement si vous le voulez. Il n'est question que d'agir. Oh, mon cher Labri, tu me combles d'aise. Quel plaisir de mener deux affaires de front et de tromper deux femmes à la fois. Tromper, mon ami, tromper, mais quelle volupté pour un homme de robe! En conséquence de ces encouragements, Fontanis se part, s'ajuste, oublie les coups de fouet dont il est déchiré, et tout en mijotant sa femme qui ne cesse de garder son lit, il dirige ses batteries sur la rusée Lucile, qui, l'écoutant d'abord avec pudeur, lui fait insensiblement plus beau jeu. Il y avait environ 4 jours que ce petit manège durait, sans qu'on eût l'air de s'en apercevoir. Lorsqu'on reçut au château des avis des Gazettes et des Mercures, invitant tous les astronomes à observer la nuit suivante le passage de Vénus sous le signe du Capricorne. Bon, parbleu, l'événement est singulier, dit le président en connaisseur, aussitôt qu'il eut lu cette nouvelle. Je ne me serais jamais attendu à ce phénomène. J'ai, comme vous le savez, mesdames, quelques teintures de cette science. J'ai même fait un ouvrage en 6 volumes sur les satellites de Mars. Sur les satellites de Mars, dit la marquise en souriant. Ils ne vous sont pourtant pas très favorables, président. Je suis étonné que vous ayez choisi cette matière. Toujours badine, charmante marquise. Je vois bien qu'on n'a pas gardé mon secret, et quoi qu'il en soit, je suis très curieux de l'événement qu'on nous annonce. Et avez-vous un endroit ici, marquis, où nous puissions aller observer la trajectoire de cette planète? Assurément, répondit le marquis. N'ai-je pas au-dessus de mon colombier un observatoire très en forme? Vous y trouverez d'excellentes lunettes, des quarts de cercle, des compas, tout ce qui caractérise en un mot l'atelier d'un astronome. Vous êtes donc un peu du métier? Pas un mot. Mais on a des yeux comme un autre. On trouve des gens de l'art et l'on est bien aise d'en être instruit par eux. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous donner quelques leçons en 6 semaines et je vous apprends à connaître la Terre mieux que Descartes ou Copernic. Cependant, l'heure arrive de se transporter à l'observatoire. Le président était désolé de ce que l'incommodité de sa femme allait le priver du plaisir de faire le savant devant elle, mais le pauvre diable, il ne savait pas que c'était elle qui allait jouer le premier rôle dans cette singulière comédie. Quoique les ballons ne fussent pas encore publiés, ils étaient déjà connus en 1779, et l'habile physicien qui devait exécuter celui dont il va être question, plus savant qu'aucun de ceux qui le suivirent, eut le bon esprit d'admirer, comme les autres, et de ne dire mot, quand des intrus arrivèrent pour lui ravir sa découverte. Au milieu d'un aérostat parfaitement bien fait, devait s'élever à l'heure prescrite Mademoiselle de Thérose dans les bras du comte d'Elben, et cette scène, vue de très loin et seulement éclairée d'une flamme artificielle et légère, était assez adroitement représentée pour en imposer un sot comme le président, qui n'avait même de sa vie lu un ouvrage sur la science dont il se parait. Toute la compagnie arrive sur le sommet de la tour, on s'arme de lunettes et le ballon part. Apercevez-vous ? Se dit-on mutuellement. Non, pas encore. Si, si, fait, je vois. Non, non, c'est pas cela. Vous demande pardon, à gauche, fixez-vous vers l'Orient. Oh, je le tiens ! S'écria le président tout enthousiasmé. Je le tiens, mes amis, dirigez-vous sur moi, un peu plus près de la Mercure, pas si loin que Mars, très au-dessous de l'ellipse de Saturne, là. Oh, grand Dieu, que c'est beau !
Je vois comme vous, président, dit le marquis. Oh, c'est en vérité une chose superbe. Apercevez-vous la conjonction ?
Je la tiens au bout de ma lunette.
Et le ballon, passant dans ce moment au-dessus de la tour.
Eh bien, dit le marquis, les avis que nous avons reçus ont-ils tort et ne sont-ils valides pas Vénus au-dessus du Capricorne ?
Rien de plus sûr, dit le président. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie.
« Qui sait, dit le marquis, si vous serez toujours obligé de monter si haut pour le voir à votre aise ?»«
Ah, marquis, que vos plaisanteries sont hors de propos dans un si beau moment !»
Et le ballon, se perdant alors dans l'obscurité, chacun descendit fort content du phénomène allégorique que l'art venait de prêter à la nature.
« En vérité, je suis désolé que vous ne soyez pas venu partager avec nous « le plaisir que nous a donné cet événement, » dit M. de Fontanis à sa femme qu'il retrouva au lit en rentrant. « Il est impossible de rien voir de plus beau. »«
Oh, je le crois, » dit la jeune femme, « mais on m'a dit qu'il y avait à cela tout plein de choses immodestes que, dans le fond, je ne suis nullement fâché de n'avoir point vu. »«
Immodeste, » dit le président en ricanant avec tout plein de grâce. « Eh, point du tout !» C'est une conjonction. Y a-t-il rien de plus dans la nature ? C'est ce que je voudrais bien qu'il se passe enfin entre nous, et ce qui se verra quand vous voudrez. Mais dites-moi, là, en bonne conscience, souveraine directrice de mes pensées, n'est-ce pas assez faire languir votre esclave, et ne lui accorderez-vous pas bientôt la récompense de ses peines ?
« Hélas, mon ange, lui dit amoureusement sa jeune épouse, croyez que j'en ai pour le moins autant d'empressement que vous, mais vous voyez mon état, et vous le voyez sans le plaindre, cruel, quoi qu'il soit absolument votre ouvrage, moins de tourments pour ce qui vous intéresse, et je m'en porterai beaucoup mieux. »
Le président était au nu de s'entendre cajoler de la sorte. Il se pavanait, il se redressait. Jamais Robin, pas même ceux qui viennent de pendre, n'avaient encore eu le coup si roide. Mais, comme avec tout cela, les obstacles se multipliaient du côté de Mademoiselle de Thérose, et que de celui de Lucile on faisait au contraire le plus beau jeu du monde, Fontanis ne balança point à préférer les myrtes fleuries de l'amour aux roses tardives de l'hymen.
L'une ne peut pas me fuir, se disait-il. Je l'aurai toujours quand je voudrais, mais l'autre n'est peut-être que pour un instant. Il faut se presser d'en tirer parti.
Et d'après ses principes, Fontanis ne perdait aucune des occasions qui pouvaient avancer ses affaires.
Hélas, monsieur, lui disait un jour cette jeune personne avec une candeur feinte, ne deviendrai-je pas la plus malheureuse des créatures si je vous accorde ce que vous exigez ? « Lié comme vous l'êtes, pourrez-vous jamais réparer le tort que vous ferez à ma réputation ?»«
Qu'appelez-vous réparer ? On ne répare point dans ce cas-là. Nous n'aurons pas plus à réparer l'un que l'autre. C'est ce qui s'appelle un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a jamais rien à craindre avec un homme marié, parce qu'il est le premier intéressé au secret, moyennant quoi ça ne vous empêchera pas de trouver un époux. »
Et la religion et l'honneur, monsieur ?
Misère que tout cela, mon cœur ! Je vois bien que vous êtes une nièce, que vous avez besoin d'être quelque temps à mon école. Ah ! Comme je ferais disparaître tous ces préjugés de l'enfance !
Mais j'avais cru que votre état vous engageait à les respecter ?
Mais vraiment oui, à l'extérieur, nous n'avons que l'extérieur pour nous. Il faut bien au moins en imposer par là, mais une fois dépouillé de ce vieux vain décorum qui nous oblige à des égards, nous ressemblons en tout au reste des mortels. Et comment pourriez-vous croire que nous sommes à l'abri de leurs vices ? nos passions, bien plus échauffées par le récit ou le tableau perpétuel des leurs, ne mettent de différence entre eux et nous que par les excès qu'ils méconnaissent et qui font nos délices journalières. Presque toujours à l'abri des lois dont nous faisons frémir les autres, cette impunité nous enflamme et nous n'en devenons que plus scélérats. Lucile écoutait toutes ces futilités et quelque horreur que lui inspirassent et le physique et le moral de cet abominable personnage, elle continuait de lui offrir des facilités parce que la récompense qui lui était promise n'était qu'à ses conditions. Plus les amours du président avançaient, plus sa fatuité le rendait insoutenable. Il n'y a rien de plaisant dans le monde comme un robin amoureux. C'est le tableau le plus achevé de la gaucherie, de l'impertinence et de la maladresse. Si le lecteur a quelquefois vu le dindon prêt à multiplier son espèce, il a de l'esquisse qu'on voudrait lui offrir la plus complète des idées. Telle précaution qu'il prit pour se déguiser un jour, que son insolence se mettait pourtant trop à découvert, le marquis voulut l'entreprendre à table et l'humilier devant sa déesse. « Président, lui dit-il, je reçois à l'instant des nouvelles affligeantes pour vous. » « Comment donc ?»« Oui, on m'assure que le Parlement d'Aix va être supprimé. Le public se plaint qu'il est inutile. Aix a bien moins besoin d'un Parlement que Lyon, et cette dernière ville, beaucoup trop loin de Paris pour en dépendre, englobera toute la Provence. Elle la domine, elle est positivement placée comme il faut pour receler dans son sein les juges d'une province aussi importante. » Cet arrangement n'a pas le sens commun. Mais il est sage. Aix est au bout du monde. Quelle que soit la partie qu'habite un provençal, il n'y en a point qui n'aimât mieux venir à Lyon pour ses affaires que ventre bourbier d'Aix. Des cheveux épouvantables, point de pont sur cette Durance qui, comme vos têtes, se dérange 9 mois de l'année, et puis des torts particuliers, je ne vous le cache pas. D'abord, on blâme votre composition. Il n'y a pas, dit-on, dans tout le Parlement d'Aix, un seul individu qui puisse se nommer. Des marchands de thon, des matelots, des contrebandiers, et en un mot, une troupe de coquins méprisables à laquelle la noblesse ne veut point avoir affaire et qui vexe le peuple pour se dédommager du discrédit dans lequel elle est des gauches, des imbéciles. Pardon, président, moi, je vous dis ce qu'on m'écrit. Je vous ferai lire la lettre après dîner. Des faquins, en un mot, qui poussent le fanatisme et le scandale jusqu'à laisser dans leur ville, tout comme une preuve de leur intégrité, un échafaud toujours prêt, qui n'est qu'un monument de leur plariorisme, dont le peuple devrait arracher les pierres pour lapider les insignes bourreaux qui osent, avec cette insolence, lui présenter toujours des fers. On s'étonne qu'il ne l'ait pas encore fait, et l'on prétend que ça ne peut tarder. Une foule d'arrêts injustes, une affectation de sévérité dont l'objet est de se faire passer tous les crimes législatifs qui leur plaident commettre, des choses bien plus sérieuses, enfin, à revenir à tout ceci. Ennemis décidés de l'État, et cela dans tous les siècles, ose-t-on dire ouvertement. L'horreur publique qu'inspirèrent vos exécrations de Mérindole n'est pas encore éteinte dans les cœurs. Ne donnâtes-vous point en ce temps le spectacle le plus horrible qu'il soit possible de peindre? Peut-on se figurer sans frémir les dépositaires de l'ordre, de la paix et de l'équité, courant la province comme des frénétiques, le flambeau d'une main, le poignard de l'autre, brûlant, tuant, violant, massacrant tout ce qui se présente, comme une troupe de tigres enragés qui seraient échappés des bois? Appartient-il à des magistrats de se conduire de cette manière? Me rappelle aussi plusieurs circonstances où vous vous refusâtes opiniâtrement à secourir le roi dans ses besoins. Vous fûtes différentes fois prêts à faire révolter la province plutôt que de vous laisser compromettre dans le rôle des impositions. Croyez-vous qu'on a oublié cette malheureuse époque où, sans qu'aucun danger vous menaçât, vous vînes à la tête des citoyens de votre ville en apportant les clés au connétable de Bourbon qui trahissait son roi?
et celle où, frémissant de la seule approche de Charles Quint, vous vous pressâtes de lui rendre hommage et de la faire entrer dans vos murs. Et ne sait-on pas que ce fut au sein du Parlement d'Aix que se fomentèrent les premières semences de la Ligue, et qu'en tous les temps, en un mot, on ne trouva dans vous que des factieux ou des rebelles, que des meurtriers ou des traîtres? Vous le savez mieux que moi, vous le savez mieux que qui que ce soit, messieurs les magistrats provençaux. Quand on a envie de perdre quelqu'un, on cherche tout ce qu'il a pu faire autrefois, on rappelle avec soin tous ses anciens torts pour aggraver la somme des nouveaux. Ne vous étonnez donc pas qu'on se comporte avec vous comme vous l'avez fait avec les malheureux qu'il vous a plu d'immoler à votre pédantisme. Apprenez-le, mon cher président. Il n'est pas plus permis à un corps qu'à un particulier d'outrager un citoyen honnête et tranquille. Et si ce corps s'avise d'une pareille inconséquence, qu'il ne s'étonne pas de voir toutes les voix s'élever contre lui et réclamer les droits du faible et de la vertu contre le despotisme et l'iniquité. Le président, ne pouvant ni soutenir ses inculpations ni y répondre, se leva de table comme un furieux en jurant qu'il allait quitter la maison. Après le spectacle d'un Robin amoureux, il n'y en a point de visible comme un Robin en colère. Les muscles de son visage, naturellement arrangés par l'hypocrisie, obligés de passer subitement de là aux contorsions de la rage, n'y arrivent que par des gradations violentes dont la marche est comique à voir. Et quand on se fut bien amusé de son petit dépit, comme on n'en était pas encore à la scène qui devait, à ce qu'on espérait, en débarrasser pour toujours, on travailla à le calmer, on courut à lui, on le ramena. Oubliant facilement le soir tous les petits tourments du matin, Fontanis reprit son air ordinaire et tout s'oublia. Mademoiselle de Thérèse allait mieux, quoique toujours un peu abattue à l'extérieur. Elle descendait cependant au repas et se promenait même déjà un peu avec la compagnie. Le président, moins empressé parce que Lucile l'occupait seule, vit cependant qu'il allait bientôt ne devoir plus s'occuper que de sa femme. En conséquence, il se résolut de presser vivement l'autre affaire. Elle était au moment de la crise. Mademoiselle de Todeville n'opposait plus aucune difficulté. Il ne s'agissait que de trouver un rendez-vous sûr. Le président en proposa son appartement de garçon. Lucile, qui ne couchait point dans la chambre de ses parents, accepta volontiers ce local pour la nuit suivante et en rendit compte sur le champ au marquis. On lui trace son rôle et le reste de la journée se passe tranquillement. Sur les 11 heures, Lucile, qui devait se rendre la première dans le lit du président par le moyen d'une clé que lui confiait celui-ci, prétexta un mal de tête et sortit. Un quart d'heure après, l'empressé Fontanis se retire, mais la marquise prétend que pour lui faire honneur ce soir-là, elle veut l'accompagner jusque dans sa chambre. Toute la société saisit cette plaisanterie. Mademoiselle de Thérèse est la première à s'en amuser, et sans prendre garde au président qui est sur les épines, et qui aurait bien voulu ou se soustraire à cette ridicule politesse, ou prévenir au moins celle qu'il s'imaginait qu'on allait surprendre, on s'empare des bougies, les hommes passent les premiers, les femmes entourent Fontanis, elles lui donnent la main, et dans ce plaisant cortège, on se rend à la porte de sa chambre. À peine notre infortuné galant pouvait-il respirer. « Je ne réponds de rien, » disait-il en balbutiant, « mais songez à l'imprudence que vous faites. Qui vous dit que l'objet de mes amours n'est peut-être pas à m'attendre en cet instant-ci dans mon lit? Eh, si cela est, réfléchissez bien à tout ce qui peut résulter de la conséquence de votre démarche. » « À tout événement, » dit la marquise en ouvrant précipitamment la porte. « Allons, beauté, qui dit-on, attendez le président au lit. Paraissez, n'ayez pas peur. » Mais quelle est la surprise générale quand les lumières en face du lit éclairent un âne monstrueux, mollement couché dans les draps, et qui, par une fatalité plaisante,
fort content sans doute du rôle qu'on lui faisait jouer, s'était paisiblement endormi sur la couche magistrale et y ronflait voluptueusement. Ah, parbleu! S'écria de la cour en se tenant les côtes de rire. Président, considère un peu l'heureux sang-froid de cet animal. Ne dirait-on pas que c'est un de tes confrères à l'audience? Le président, néanmoins fort aise d'en être quitte pour cette plaisanterie, le président, qui s'imaginait qu'elle jetterait un voile sur le reste, et que Lucile, s'en étant aperçue la première, aurait eu la prudence de ne faire en rien soupçonner leur intrigue, le président, dis-je, se mit à rire avec les autres. On dégagea, comme on put, le baudet, fort affligé d'être interrompu dans son sommeil. On mit des draps blancs, et Fontanis remplaça dignement le plus superbe des ânes qui se fût trouvé dans le pays. « En vérité, c'est la même chose, » dit la marquise quand elle l'eut vu coucher. « J'aurais jamais cru qu'il y eût une ressemblance si entière entre un âne et un président au Parlement d'Aix. » « Mais quelle était donc votre erreur, madame ? » reprit le marquis. « Ne savez-vous donc pas que c'est parmi ces docteurs que cette cour a toujours élu ses membres ? « Oh, je gagerais que celui que vous voyez sortir là en a été le premier président. » Le premier soin de Fontanis, dès le lendemain, fut de demander à Lucile comment elle s'était tirée d'affaire. Celle-ci, bien instruite, dit que, s'étant aperçue de la plaisanterie, elle s'était retirée fort promptement, mais avec l'inquiétude pourtant d'avoir été trahie, ce qui lui avait fait passer une nuit affreuse et désirer avec bien de l'ardeur l'instant où elle pourrait s'éclaircir. Le président la rassura et obtint d'elle sa revanche pour le lendemain. La prude Lucile se fit un peu prier. Fontanis n'en devint que plus ardent et tout se dispose suivant ses désirs. Mais si ce premier rendez-vous avait été troublé par une scène comique, quel événement fatal allait empêcher le deuxième? Les choses s'arrangent comme l'avant-veille, Lucile se retire la première, le président la suit peu après sans que qui que ce soit s'y oppose, il la trouve au rendez-vous indiqué, la saisissant entre ses bras, il s'apprête déjà à lui donner des preuves non équivoques de sa passion, et tout à coup les portes s'ouvrent, c'est monsieur et madame de Tocqueville, c'est la marquise, c'est mademoiselle de Thérouse elle-même. « Monstre ! » s'écrie-t-elle en se jetant en fureur sur son mari. « Est-ce donc ainsi que tu te ris de ma candeur et de ma tendresse ?»« Fille atroce !» dit M. de Tocqueville à Lucile, qui s'est précipitée aux genoux de son père. « Ah, voilà donc comment tu abuses de l'honnête liberté que nous te laissons !» De leur côté, la marquise et Mme de Tocqueville, jetant des yeux irrités sur les deux coupables, et Mme d'Arlincourt, n'est distraite de ce premier mouvement que pour recevoir sa sœur qui s'évanouit dans ses bras. On peindrait difficilement la figure de Fontanis au milieu de cette scène. La surprise, la honte, la terreur, l'inquiétude, tous ces différents sentiments l'agitent à la fois et le rendent immobile comme une statue. Cependant, le marquis arrive, il s'informe, il apporte avec indignation tout ce qui se passe. « Monsieur, lui dit fermement le père de Lucile, je ne me serais jamais attendu que chez vous, une fille d'honneur, eût à redouter des affronts de cette espèce. Vous trouverez bon que je ne le supporte pas et que ma femme, ma fille et moi, nous partions à l'instant pour en demander justice à ceux de qui nous devons l'attendre. » « En vérité, monsieur, dit alors sèchement le marquis au président, vous conviendrez que voilà des scènes auxquelles je devais peu m'attendre. « N'est-ce donc que pour déshonorer ma belle-sœur et ma maison, qui vous a plu de vous allier à nous ?» Puis s'adressant à Tocqueville, « Rien de plus juste, monsieur, que la réparation que vous demandez. Mais j'ose vous conjurer instamment de vouloir bien éviter l'éclat. Ce n'est pas pour ce drôle-là que je le demande. Il n'est digne que de mépris et de punition. C'est pour moi, monsieur, c'est pour ma famille, c'est pour mon malheureux beau-père. » Qui, ayant mis toute sa confiance dans ce pantalon, va mourir de chagrin de s'être trompé.
Je voudrais vous obliger, monsieur, dit fièrement monsieur de Tocqueville, en entraînant sa femme et sa fille. Mais vous me permettrez de placer mon honneur au-dessus de ces considérations. Vous ne serez nullement compromis, monsieur, dans les plaintes que je vais faire. Ce malhonnête homme le sera seul. Trouvez bon que je n'écoute plus rien et que j'aille à l'instant où la vengeance m'appelle. À ces mots, les trois personnages se retirent sans qu'aucun effort humain puisse les arrêter et volent, assure-t-il, à Paris, présenter requête au Parlement contre les indignités dont a voulu les couvrir le président de Fontanis. Cependant, il ne règne plus dans ce malheureux château que du trouble et du désespoir. Mademoiselle de Thérose, à peine rétablie, se remet dans son lit avec une fièvre qu'on a soin d'assurer dangereuse. Monsieur et Madame d'Olincourt fulminent contre le président, qui, n'ayant d'autre asile que cette maison dans les extrémités qui le menacent, n'ose se révolter contre les réprimandes qui lui sont aussi justement adressées, et les choses demeurent 3 jours en cet état, lorsque des avis secrets apprennent enfin au marquis que l'affaire devient des plus sérieuses, qu'elle est traitée au criminel et qu'on est à la veille de décréter Fontanis. « En quoi, sans m'entendre ?» dit le président effrayé. « Est-ce la règle ?» lui répond Dolincourt. « Permettons des moyens de défense à celui que la loi décrète ?» Et l'un de vos plus respectables usages n'est-il pas de le flétrir avant que de l'écouter? On n'emploie avec vous que les armes dont vous vous êtes servi contre les autres. Après avoir exercé l'injustice 30 ans, n'est-il pas raisonnable que vous en deveniez au moins une fois victime dans votre vie? Mais pour une affaire de fille... Comment pour une affaire de fille? Ne savez-vous donc pas que ce sont les plus dangereuses? Cette malheureuse affaire dont les souvenirs vous ont valu 500 coups de fouet dans le château des revenants, était-elle autre chose qu'une affaire de fille? Et n'avez-vous pas cru que pour une affaire de fille, il vous était permis de flétrir un gentilhomme? Le talion, président, le talion, c'est votre boussole. Alors soumettez-vous-y avec courage. Juste ciel, dit Fontanis, au nom de Dieu, mon frère, ne m'abandonnez pas. Mais croyez que nous vous secourrons, répondit Dolincourt. Quelque déshonneur dont vous alliez couvert et quelques plaintes que nous ayons à faire de vous. Mais les moyens sont durs, vous les connaissez. Quoi donc? La bonté du roi, une lettre de cachet, enfin, je ne vois que cela. Quelle funeste extrémité! J'en conviens, mais trouvez-en d'autres. Vous devez vous sortir de France et vous perdre à jamais, tandis que quelques années de prison arrangeront peut-être tout ceci. Ce moyen qui vous révolte, d'ailleurs, n'en avez-vous pas quelquefois employé, vous et les vôtres? Ne fût-ce pas en le conseillant avec barbarie que vous achevâtes d'écraser ce gentilhomme que les esprits ont si bien vengé? N'osâtes-vous pas, par une prévarication aussi dangereuse que punissable, mettre ce malheureux militaire entre la prison ou l'infamie et ne suspendre vos foudres misérables qu'aux conditions qu'il serait écrasé par celles de son roi? Rien d'étonnant par conséquent, mon cher, dans ce que je vous propose. Non seulement cette voie est connue de vous, mais elle doit maintenant en être désirée. « Mon souvenir affreux, dit le président en versant des larmes. Qui me dit que la vengeance du ciel éclaterait sur ma tête, presque à l'instant où se consommaient mes crimes? Ce que j'ai fait, on me le rend. Souffrons, souffrons et taisons-nous. Cependant, comme les secours pressaient, la marquise conseilla vivement à son mari de partir pour Fontainebleau, où se trouvait alors la cour. Pour mademoiselle de Trérose, elle n'entra point dans ce conseil. La honte, le chagrin à l'extérieur et le comte d'Elben au-dedans, la retenait toujours dans sa chambre, dont la porte était exactement fermée au président. Il s'y était présenté plusieurs fois, il avait essayé de se la faire ouvrir par ses remords et par ses larmes, mais toujours infructueusement.
Le marquis partit donc, le trajet était court. Il arriva le surlendemain, escorté de deux exempts et muni d'un prétendu ordre dont la simple vue fit trembler le président de tous ses membres. « Vous ne pouviez arriver plus à propos, » dit la marquise, qui feignit d'avoir reçu des nouvelles de Paris pendant que son mari était à la cour. « Le procès se suit à l'extraordinaire, et mes amis m'écrivent de faire évader le président au plus tôt. Mon père a été averti, il est au désespoir. Il vous recommande de bien servir son ami et de lui peindre la douleur où tout ceci le plonge. Sa santé ne lui permet que de le secourir par des vœux. Il serait plus sincère s'il avait été plus sage. » Voilà la lettre. Le marquis l'eut à la hâte, et après avoir harangué Fontanis, qui avait bien de la peine à se résoudre dans la prison, il le remit à ses deux gardes, qui n'étaient autres que deux maréchaux de logis de son régiment, et l'exhorta à se consoler avec d'autant plus de motifs qu'il ne le perdrait point de vue. « J'ai obtenu avec beaucoup de peine, lui dit-il, un château fort situé à 5 ou 6 lieues d'ici. Vous y serez sous les ordres d'un de mes anciens amis qui vous traitera comme si j'étais moi-même. Je lui écris par vos gardes pour vous recommander encore plus vivement. Soyez donc en pleine paix. » Le président pleura comme un enfant. Rien n'est amer comme les remords du crime qui voit retomber sur sa tête tous les fléaux dont il s'est lui-même servi. Mais il n'en fallut pas moins s'arracher. Il demanda avec instance la permission d'embrasser sa femme. « Votre femme, lui dit brusquement la marquise, elle ne l'est pas encore, heureusement, et c'est dans nos calamités le seul adoucissement que nous connaissions. » « Soit, dit le président, j'aurai le courage de soutenir encore cette place-ci. » Et il monta dans la voiture des exempts. Le château où l'on conduisait ce malheureux était celui d'une terre de la dot de Madame d'Olincourt, où tout était préparé pour le recevoir. Un capitaine du régiment d'Olincourt, homme vert et rébarbatif, devait y jouer le rôle de gouverneur. Il reçut Fontanis, congédia les gardes, et dit durement à son prisonnier, en l'envoyant dans une très mauvaise chambre, qu'il avait pour lui des ordres ultérieurs, d'une sévérité dont il lui était impossible de s'écarter. On laissa le président dans cette cruelle situation pendant près d'un mois. Personne ne le voyait, on ne lui servait que de la soupe, du pain et l'eau, et il était couché sur de la paille dans une chambre d'une humidité affreuse, et l'on n'entrait chez lui que comme à la Bastille, c'est-à-dire comme chez les bêtes de la ménagerie, uniquement pour porter le manger. L'infortuné Robin fit de cruelles réflexions pendant ce fatal séjour. On ne les troubla point. Enfin, le faux gouverneur parut, et après l'avoir médiocrement consolé, il lui parla de la manière suivante. « Vous ne devez pas douter, lui dit-il, monsieur, que le premier de vos torts soit d'avoir voulu vous allier à une famille si au-dessus de vous à toutes sortes d'égards. Le baron de Thérose et le baron de Lincourt sont des gens de la première noblesse qui tiennent à toute la France, et vous n'êtes qu'un malheureux Robin provençal, sans nom comme sans crédit, sans état comme sans considération. Quelques retours sur vous-même eussent donc dû vous engager à témoigner au baron de Thérose qui s'aveuglait sur votre compte, que vous n'étiez nullement fait pour sa fille. Comment pouvez-vous croire un moment, d'ailleurs, que cette fille, belle comme l'amour, puisse devenir la femme d'un vieux et vilain singe comme vous? Il est permis de s'aveugler, mais non pas jusqu'à ce point. Les réflexions que vous avez dû faire pendant votre séjour ici, monsieur, doivent vous avoir convaincu que depuis 4 mois que vous êtes chez le marquis d'Olincourt, vous n'y avez servi que le jouet de risée. Des gens de votre état et de votre tournure, de votre profession et de votre bêtise, de votre méchanceté et de votre fourberie, ne doivent s'attendre qu'à des traitements de cette espèce. Par 1000 ruses plus plaisantes les unes que les autres, on vous a empêché de jouir de celle à laquelle vous prétendiez. On vous a fait donner 500 coups d'étrivière dans un château de revenants. On vous a fait voir votre femme dans les bras de celui qu'elle adore.
ce que vous avez sottement pris pour un phénomène, et on vous a mis aux prises avec une catin gagée qui s'est moquée de vous. Bref, on vous a enfermé dans ce château où il ne tient qu'au marquis d'Olincourt, mon colonel, de vous tenir jusqu'à la fin de votre vie, ce qui sera très certainement si vous vous refusez à signer l'écrit que voilà. Observez avant de le lire, monsieur, continua le prétendu gouverneur, que vous ne passez dans le monde que comme un homme qui devait épouser mademoiselle de Thérose, mais nullement pour son mari. Votre hymen s'est fait le plus secrètement possible. Le peu de témoins a consenti à se désister. Le curé a rendu l'acte, le voici. Le notaire a remis le contrat, vous le voyez devant vos yeux. Vous n'avez de plus jamais couché avec votre femme. Votre mariage est donc nul. Il est donc cassé tacitement et du plein gré de toutes les parties, ce qui donne à sa rupture autant de force que si elle était l'ouvrage des lois civiles et religieuses. Voilà de même le désintestant du barreau de Thérose et de sa fille. Il ne manque plus que le vôtre, le voilà, monsieur. Choisissez entre la signature à l'amiable de ce papier ou la certitude de terminer ici vos jours. Répondez, j'ai tout dit. Le président, après un peu de réflexion, prit le papier et y lut ces mots. J'atteste à tous ceux qui liront ceci que je n'ai jamais été l'époux de mademoiselle de Thérose. Je lui rends par cet écrit tous les droits qu'on pensa être quelque temps me donner sur elle, et je proteste de ne les réclamer de ma vie. Je n'ai qu'à me louer d'ailleurs des procédés qu'elle et sa famille ont eu pour moi pendant l'été que j'ai passé dans leur maison. C'est de commun accord, de notre plein gré à l'un et à l'autre, que nous renonçons mutuellement au dessein de réunion que l'on avait formé sur nous, que nous nous rendons réciproquement la liberté de disposer de nos personnes, comme si jamais il n'eût existé d'intention de nous rejoindre. Et c'est en pleine liberté de corps et d'esprit que je signe ceci au château de Val-Nord, appartenant à madame la marquise d'Olincourt. « Vous m'avez dit, monsieur, reprit le président, après la lecture de ces lignes, ce qui m'attendait, si je ne signais pas, mais vous ne m'avez point parlé de ce qui m'arriverait si je consentais à tout. Mais la récompense en sera votre liberté dans l'instant, monsieur, reprit le faux gouverneur. La prière d'accepter ce bijou de 200 louis de la part de madame de la marquise de Lincourt et la certitude de trouver à la porte du château votre valet et deux excellents chevaux qui vous attendent pour vous ramener à Aix. Je signe part, monsieur. J'ai trop à cœur de me délivrer de tous ces gens-ci pour balancer une minute. » Voilà qui va bien, président, dit le capitaine, en prenant l'écrit signé et lui remettant le bijou. Mais prenez garde à votre conduite. Une fois dehors, si la manie de vous venger allait quelquefois s'emparer de vous, réfléchissez avant que d'en venir là, que vous ayez affaire à forte partie, que cette famille puissante que vous enfonceriez tout entière par vos démarches vous ferait aussitôt passer pour un fou et que l'hôpital de ces malheureux deviendrait pour jamais votre dernière demeure. « Nous n'en craignons rien, monsieur, dit le président. Je suis le premier intéressé à ne plus avoir affaire avec de telles personnes. » Et je vous réponds que je saurai les éviter. Je vous le conseille, président, dit le capitaine, en lui ouvrant enfin sa prison. Partez en paix, et que jamais ce pays ne vous revoie. Comptez sur ma parole, dit le robin en montant à cheval. Ce petit événement m'a corrigé de tous mes vices. Je vivrai encore 1000 ans que je ne viendrai plus chercher de femme à Paris. J'avais quelquefois compris le chagrin d'être cocu après le mariage, mais je n'entendais pas qu'il fût possible de le devenir avant. Même sagesse, même discrétion dans mes arrêts. Je ne m'érigerai plus en médiateur entre des filles et des gens qui valent mieux que moi. Il en coûte trop cher pour prendre le parti de ces demoiselles-là. Je ne veux plus avoir affaire à des gens qui ont des esprits tout prêts pour les venger. Le président disparut et, devenu sage à ses dépens, on n'entendit plus parler de lui. Les catins se plaignirent,
On ne les soutint plus en Provence, et les mœurs y gagnèrent, parce que les jeunes filles, se voyant privées de cet indécent appui, préférèrent le chemin de la vertu au danger qui pouvait les attendre dans la route du vice, quand les magistrats seraient assez sages pour sentir l'inconvénient affreux de les soutenir par leur protection. On se doute bien que pendant les arrêts du président, le marquis d'Olincourt, après avoir fait revenir le baron de Thérolles de ses préjugés trop favorables sur Fontanis, avait travaillé à ce que toutes les dispositions qu'on vient de voir fussent faites avec sûreté. Son adresse et son crédit réussirent si bien que 3 mois après, Mademoiselle de Thérolles épousa publiquement le comte d'Elbène, avec lequel elle vécut parfaitement heureuse. J'ai quelquefois un peu de regret d'avoir autant maltraité ce vilain homme, disait un jour le marquis à son aimable belle-sœur. Mais quand je vois d'un côté le bonheur qui résulte de mes démarches, et que je me convainc de l'autre que je n'ai vexé qu'un drôle inutile à la société, faussièrement ennemi de l'État, perturbateur du repos public, bourreau d'une famille honnête et respectable, diffamateur insigne d'un gentilhomme que j'estime et auquel j'ai l'honneur d'appartenir, je me console et je m'écris avec le philosophe « Ô souveraine Providence, pourquoi faut-il que les moyens de l'homme soient assez bornés pour ne pouvoir jamais parvenir au bien que par un peu de mal ?» Fin de ce conte le 16 juillet 1787 à 10 heures du soir.